Après les mois de juillet et août qui ont été dominés par le cinéma américain, et où en gros on n'a eu aucune sortie asiatique, ce qui nous a forcé dans le podcast zéro de parler de boosts comme Wolverine ou d'excellents films comme Pacific Rim, le 4 septembre est sorti le premier film asiatique de la rentrée, qui est Ilo Ilo d'Anthony Cheng. Il y a un premier film qui a été remarqué au Festival de Cannes, où il a raflé la Caméra d'Or, qui récompense donc le premier film, toutes sélections confondues. Le film raconte le quotidien d'une famille de Singapour, touchée par la crise, surtout à travers le point de vue du jeune fils, qui est un peu turbulent, un peu comme Nicolas, et de sa nounou qui vient des Philippines. Ça, je voulais faire une vanne sur Julien, mais comme il n'est pas là, tant pis.
You can call me Terry, ma'am.
Just your bed. Sleep here. No. Terry, give me your passport.
Come on, Lauren, your passport.
But I'll throw him out.
You can see her.
Where? Where?
Where's the money?
Where's my phone? I am your maid, but I didn't come here to be bullied.
Qui a été touché par le premier film d'Anthony Cheng?
Moi, un peu, enfin pas mal quand même, parce que en fait c'est un film qui est assez naturaliste, c'est-à-dire qu'il n'en fait jamais trop, il filme ses personnages avec sincérité, avec c'est un film touchant quoi, donc c'est en fait la base de l'histoire, c'est un peu semi autobiographique, voire complètement autobiographique, puisque le réalisateur, quand il était enfant, il vient dans une famille où il y avait une servante, et cette servante, il s'est beaucoup attaché à cette servante en fait, et donc il y a beaucoup de cette servante dans le personnage de la nounou, qui venait aussi des Philippines. Et donc du coup, d'ailleurs, le titre du film vient de l'endroit aux Philippines, d'où vient la servante, enfin la nounou. Et donc, moi j'ai bien aimé en fait l'évolution des rapports entre les personnages, c'est-à-dire qu'au départ, il joue beaucoup sur la réalité sociale du pays, qui est assez sombre quand même, quand décrit de façon assez sombre dans le film, et donc qui influe un peu la relation, le cercle familial en fait.
Globalement, le père a perdu son travail, voilà, et il fait un peu, c'est un peu comme dans L'Adversaire de Carrère, où il le dit pas à sa famille. Bon, ça finit quand même de manière moins dramatique, et ça reste relativement léger quand même quand ça parle du.
C'est assez léger, mais contenu, ça en fait le film est assez léger. Enfin, il y a toujours une espèce de. D'ailleurs, la photo est très lumineuse. C'est toujours un ton un peu léger, c'est jamais vraiment dramatique quoi. Bon, mais il y a toujours un espèce de drame derrière qui couve,
très
éclaté, voilà. On reste au niveau, enfin point de vue d'un enfant en fait, donc c'est toujours un peu léger, mais il y a toujours quelque chose de qui couve derrière, hein. Par exemple un moment où il y a un suicide qui survient d'un seul coup comme ça, et on se rend compte que derrière toute cette, ça peut éclater à n'importe quel moment quoi. Mais le réalisateur justement reste de ce point de vue de cet enfant et filme ses personnages vraiment avec sincérité, et donc on est vraiment touché par cette famille qui essaye un peu avec leurs moyens de trouver une sorte de liberté en fait par rapport aux barrières de la société en fait.
Jérémy, toi t'as aimé?
J'ai pas été aussi touché que Nicolas, parce que j'ai trouvé ça vraiment artificiel en fait. C'est vraiment le prototype même du film de festival asiatique. C'est le film asiatique un peu langoureux comme ça, où il se passe pas grand chose. Il y a une belle petite photo avec une réalité sociale assez difficile, mais finalement c'est très plat. Voilà, comme dirait Victor, c'est sans aspérité. Et il se passe pas grand chose.
Je pourrais pas le sortir.
Ah, merde.
Le point culminant du podcast, c'est la leçon d'aspérité sur Ilo Ilo, quoi.
Et donc, on traverse le film un peu comme ça, en s'en foutant un peu. Il n'y a pas de moment d'émotion vraiment qui. Voilà, moi, j'ai pas été touché par ce gamin là qui fait chier tout le monde.
Il est un peu énervant, surtout dans la première partie. Mais moi, c'est pareil, dans la première partie, je trouve que le film a quelques longueurs. Et je trouve que justement, le fait que dans la première partie. enfin la relation difficile entre le fils, la mère, le père, ça incite pas forcément à s'identifier au personnage, mais je trouve qu'il y a une vraie évolution en fait à ce niveau-là.
Ouais, mais justement, t'as vu ça mille
parce
fois.
Parce que justement, je trouve que le réalisateur quand même a un certain talent pour montrer les choses subtilement en fait.
Mais justement, voilà, c'est ça.
Ça va du Walkman par exemple. De l'odeur des cheveux nounou pour créer des liens entre voilà, c'est des petites subtilités comme ça. C'est peut-être qu'il se passe pas grand chose, ouais. Mais je trouve que il y a toujours,
mais justement cette subtilité, c'est un truc, voilà, qu'on a voilà, déjà vu plein ça. De fois, ouais. Et moi, enfin, je suis complètement d'accord avec Jérémy, et après c'est très difficile d'en dire du mal parce que c'est quand même un premier film, c'est un petit film, donc enfin les critiques ont été plutôt bonnes,
plutôt bonnes
aussi,
ouais.
Vu que c'est toi qui l'as écrit, Nicolas, ouais. T'es touché,
non, mais c'est pas un grand film, dire que c'est un petit film qui a du cœur, moi je trouve. C'est mais le réalisateur a conscience qu'il fait un petit film. Il l'a d'ailleurs quand il l'avait présenté, parce que je l'avais déjà vu au Festival de Paris, j'avais vu
à Paris Cinéma.
Ouais. Paris Cinéma. Il l'avait présenté, il avait très conscience, ouais. Il était très humble, il avait très conscience de faire un petit film.
Mais voilà, il a fait le tour des festivals.
Voilà, qui raconte
s'il avait
quelque chose de très intimiste.
Alors mais... ça, bon, peut-être que si les distributeurs du film nous écoutent, ils pourront nous corriger. Mais j'ai l'impression que s'il avait pas eu la caméra d'or, il serait certainement pas sorti, parce qu'on en voit beaucoup des films comme ça.
C'est vrai que c'est pas la meilleure caméra d'or.
Non, puis même ça pue, hein, mais... ça pue l'exotisme de base qu'on cherche dans un film asiatique. Vraiment, le truc, toutes les critiques se régaleront avec leurs petites phrases, tout en subtilité, entre guillemets, voilà, c'est frais. Ça, c'est
en
frais.
Même temps, on voit que ça lasse un peu la critique aussi. Enfin, il a pas une couverture énorme.
Ouais, mais il a été apprécié quand même.
Ouais, mais parce que c'est ça, c'est difficile d'en dire du mal. Enfin,
oui, c'est généreux,
il
quoi.
Il y a une sincérité qui est évidente. Après, ça veut pas dire. Enfin, il a un peu les défauts de ses qualités. C'est-à-dire, voilà, c'est pas parce que c'est sincère et que c'est un petit film que c'est original, que c'est fort. Enfin, justement, ça manque un peu de force, de la subtilité. Amène une sensation quand même de déjà-vu, je trouve.
Il y a un petit côté absurde des fois qui passe bien.
Ah oui, avec le père qui fume des cigarettes sur le palier alors que c'est la mère qui nettoie.
Voilà, ou même certaines scènes, l'anniversaire avec les bougies, etc. Il y a une sorte de des petits moments de flottement comme ça qui sont assez intéressants, mais il va pas au bout et il reste en surface et ça donne un film vraiment lisse, vraiment...
Sans aspérité, quoi.
sans aspérité, mais c'est le terme. Et vraiment, avec Victor, à la fin du film, on s'est regardé, on s'est dit, bon, bah, ok, bon, ouais, il a fait son premier film, il s'est inspiré de sa vie, le pauvre, il a une servante auquel il s'est attaché à sa servante, ouin, en fond.
C'est très intimiste, ouais, je suis tout à fait d'accord.
Non, mais les films intimistes, c'est beau, les films intimistes, mais là, ce truc-là, on l'a vu mille fois, quoi. Même dans les films américains, on le voit 10 millions de fois.
Enfin, Coréda, justement, ouais, quand on parle de subtilité, c'est un peu dans la veine de Coréda.
Je l'ai pas vu encore. Fait...
Mais même de tous ses films.
Tous ses films, bien sûr.
Et c'est beaucoup.
Et pour filmer les enfants, Coréda, c'est autre chose. Là, il te filme un môme, il te le filme même pas avec amour. Le môme est un gros connard, vraiment, pendant tout le film. Tu ne comprends pas ce qu'il fait, en fait. Des fois, tu
pas
comprends pas ses réactions.
Je suis pas d'accord.
Il y a un truc avec son grand-père. Voilà. Ça aussi, c'est dans la subtilité. Il y a une photo de son grand-père.
Oui,
on sait qu'il est décédé, qu'il était.
Ça explique. Ce qui est bien, c'est qu'il explique un peu les attitudes des personnages par les petits détails comme ça.
Oui, mais Coréda, il a pas besoin de ça, quoi.
C'est des petits détails, il montre une photo, il parle de son grand-père une fois, mais bon,
c'est appuyé quand même. C'est pas des petits détails, on voit la photo du grand-père et il dit touche pas à la photo de mon grand-père.
Ouais, c'est ça,
c'est pas une subtilité, ça. Alors que Coréda, il a besoin d'un seul plan sur le regard d'un môme ou des petits mots comme ça, juste un plan, quoi. Coréda, dans le dernier Coréda, il y a un plan où on voit.
Tel père, tel fils,
on voit deux voitures qui sont séparées comme ça, et chacun part de son côté. Voilà, Coréda, il a tout résumé en un seul plan. Il a résumé la situation.
Mais Coréda, c'est un grand réalisateur, alors que Anthony Chen, c'est son premier film.
Oui, certes.
Je trouve que quand même, il y a une réelle sensibilité qui m'a touché, moi, personnellement.
Mais non, mais je comprends parfaitement, mais on va passer à autre chose, là. Non, c'est ça.
Mais en tout cas, on vous le conseille quand même, parce que c'est un gentil petit film.
C'est un gentil petit film. Enfin, avec touché ou pas, quoi.
Non, puis c'est horrible de dire ça, quoi.
Ouais.
C'est sympa, quoi, ouais.
Bah, je sais pas si encore en salle. Il est sorti le 4 septembre. Par contre, il y a un autre film, le deuxième film dont on va parler sur ce podcast, qui est en salle le 25 septembre.
Aujourd'hui.
Ouais, ou demain. On verra si on a de la. Normalement, ça sera demain. En tout cas, vous pouvez aller le voir sans aucun problème. C'est Letter to Momo, d'Hiroyuki Okihira, ou Lettre à Momo. Donc, c'est le nouveau film du réalisateur de Jinro, qui quitte la SF engagée pour une chronique fantastique, presque du fantastique un petit peu quotidien, qui suit le parcours d'une jeune fille qui doit faire Donc c'est un film d'animation, je ne sais pas si, si j'ai dit.
Non,
c'est un film...
tu l'as pas précisé. Voilà.
En tout cas, c'est un film d'animation, ce qui est très, très important. Donc qui suit le quotidien d'une jeune fille qui doit faire le deuil de son père et qui vire vers un léger fantastique, bon, un peu à la Miyazaki, qui est la référence et le passage obligé, lorsqu'elle fait la connaissance de trois yokai, une espèce de démon gardien japonais un peu grotesque.
Momo, une fillette de 11 ans, vient s'installer avec sa mère sur une petite île où le temps semble s'être arrêté.
Voici ma fille, Momo.
Momo Miura.
Bonjour, grand-tante. Tu veux pas qu'on retourne à Tokyo?
Tu peux y retourner toute seule, si tu veux.
Pourquoi n'as-tu pas terminé cette lettre, papa?
Momo découvre alors des personnages très particuliers.
Mon nom est Iwa. Le grand maigre, c'est Kawa. Et cette drôle de chose-là, c'est Mamé.
Tu parles de gardien! Allez-vous-en d'ici ou bien vous allez le regretter!
À ton avis, comment ça se fait qu'elle arrive à nous voir?
Mais vous pouvez envoyer des lettres aux morts, alors?
Je sens qu'on va avoir de gros ennuis!
Il a mis 11 ans à le produire. Est-ce que le résultat méritait autant d'attente et de travail?
Bah, esthétiquement, ouais. C'est, enfin, le travail esthétique sur le film est absolument immense. Enfin, le détail sur les décors, les dessins, tout ça, parce que c'est du dessin à la main. Hein. Et donc, je crois qu'il a, rien que pour la conception de cet univers, il a passé, je crois, 7 ans à tout créer, et il faut dire que c'est assez bluffant, quoi. même au niveau du travail de l'animation, au niveau des visages, des expressions, déjà c'est un très bon point pour le film, c'est vraiment bluffant à ce niveau-là. Bon, après j'ai quelques réserves, on va y revenir sur le contenu, mais...
Non, vas-y.
Bah, en fait, moi le problème que j'ai avec ce film, c'est que je trouve qu'il se démarque pas assez un peu des maîtres du genre, hein. Je vais citer évidemment Miyazaki, mais je trouve que... C'est un beau film, mais il reprend trop certaines figures de cinéma d'animation japonais qu'on a l'habitude de voir. Je pense par exemple à la figure de la tempête qu'on a déjà vue. Je pense beaucoup à Ponyo, en fait. Ponyo, ouais, sur la falaise.
La dernière scène,
voilà, c'est Ponyo, quoi. C'est Ponyo, quoi. Et même les enfants loups, qui c'est pareil, il y a une tempête à la fin. Et j'ai l'impression que cette figure de la tempête, on sait que les Japonais sont très très marqués par les conditions climatiques qui frappent leur pays. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à lasser, quoi. C'est toujours la même chose. En fait, chaque fois, le climax de ces films-là est résolu dans une tempête. Ça commence un peu à me lasser à ce niveau-là. Et après, je trouve que le film est un peu trop... il sait pas trop... Il y a toujours un peu le cul entre deux chaises. Il sait pas trop quel... Enfin, je sais pas, j'étais un peu... J'ai un truc que je pourrais pas expliquer qui m'a un peu gêné pendant tout le film. Ça veut être émouvant, mais en même temps ça l'est pas assez. Ça veut être drôle, mais en même temps ça l'est pas assez. Enfin voilà, quoi. C'est un peu gris, quoi. Mais ça reste un beau film, et surtout esthétiquement magnifique, quoi.
Jérémy, toi, t'as trouvé aussi que c'était déjà vu.
T'as été touché par Hello Hello et t'as pas été touché par ce film-là.
J'ai pas été aussi touché que j'aurais voulu, quoi. Comme par exemple un Chihiro, enfin, je vais prendre.
Ouais, mais voilà, c'est le problème ici, c'est qu'on compare toujours à Miyazaki, même si, bon, d'accord, oui, la tempête, tout ça, on pense à Ponyo, ouais. Effectivement.
Il y a le directeur de l'animation, on m'échappe et j'ai pas noté,
qui travaillait sur
Ghibli, notamment. Oui. Donc,
ouais, en même temps, c'est une petite mafia quand même. Bon,
mais voilà, c'est toujours le même.
Mais vraiment, voilà, déjà le travail sur les dessins, comme tu disais, c'est vraiment sublime. C'est un des plus beaux dessins animés que j'ai vu depuis bien longtemps.
Je suis d'accord.
C'est magnifique. Voilà, vraiment. En plus, je l'ai vu dans des bonnes conditions, voilà, en HD, etc. Et c'était vraiment, vraiment sublime.
Allez le voir en salle.
Allez le voir en salle, évidemment. Ce discours sur le deuil, vraiment, c'est du déjà vu. j'ai du déjà vu, ça je le concède parfaitement, mais voilà, c'est subtil, comme tu disais sur Hilo Hilo, bah là c'est vraiment subtil, ça, c'est par petites touches comme ça, ça se rajoute au fur et à mesure, tu sens les douleurs, comment c'est difficile de passer à autre chose, tu vois les larmes de la mère qui pleure toute seule, et la petite fille qui peu à peu réalise ce qui se passe, etc., et c'est assez beau. Après,
mais du temps à réaliser quand même.
Oui, mais justement, mais c'est un processus. Ouais. Le deuil, c'est long.
Ouais, d'accord, mais c'est vrai que le film dure 2 heures.
Le film est trop long, ça c'est clair. Long, quoi. Et ensuite, il y a ce côté burlesque qui est rajouté avec les monstres, qui sont vraiment le contrepoids à la dureté du.
Mais ça, tu trouves que ça film. Marchait? Parce que moi, les monstres, je les ai jamais trouvés drôles. Je les ai jamais trouvés vraiment réels. Je trouve que la greffe marche.
Bah, c'est un peu une sorte, c'est des sortes de Stooges, quoi. C'est vraiment c'est les trois Stooges, ils sont là, ils font leur gag. Ça marche parce que j'ai trouvé ça mignon, en fait. Tu sens que c'est. Je sens que le jeune public pourrait bien se marrer là-dessus.
Ouais.
Et moi, voilà, avec mon petit cœur de qui bat, mon petit cœur d'enfant qui bat, bah, ils m'ont fait rire avec leur gueule, voilà, sont marrants, sont touchants. Et Victor, je vais te laisser continuer.
Ouais, moi c'est le cas, justement, j'ai plus d'âme d'enfance, donc je ne suis plus.
T'as pas de cœur,
après, j'ai pas été touché par Hilo Hilo et j'ai pas été touché par la trame Momo, donc au moins je suis
pose-toi
conscient.
Pose-toi les bonnes questions.
Mais j'ai un peu les mêmes. Voilà, les mêmes reproches qu'à Hilo Hilo, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des bonnes idées à la base. Par exemple, ça part d'une lettre que, avant de mourir, le père a commencé à écrire à sa fille.
Très
il dit « cher Momo » et il finit pas. C'est une belle idée. Mais après, par la suite, dans ce travail de deuil, je trouve que tout est un peu trop appuyé. Tout est très explicité. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place, justement, à la moindre faille dans le film, à la moindre aspérité, on va dire, c'est le mot de la soirée. Et que toutes les émotions sont téléphonées, c'est-à-dire que voilà, par exemple, elle va prendre un album de photos du père et quand elle se rend compte que sa mère aussi a un travail de deuil à faire, elle regarde les photos et il y a la petite musique au piano bien triste qui commence à se
moment-là. Mais dans les Miyazaki, t'en as des scènes comme ça.
Oui, mais justement, les Miyazaki datent d'avant. Il y avait une. Enfin, là, tu t'y attends tellement et chaque élément, tu t'attends à ce que la scène se produise de la manière dont elle se produit.
Oui, t'es pas surpris.
Donc il n'y a vraiment aucune surprise. Non. Et un manque d'originalité totale, moi, je trouve, dans le film. Après, je vous rejoins sur la qualité du détail et de l'animation. Je trouve que la poésie est là-dedans. Et les yokai m'ont gonflé, par contre. Voilà, je les ai trouvés lourds. Là aussi,
cette espèce de vague finale où tous les monstres se rassemblent.
Mais c'est beau, visuellement, déjà, c'est magnifique.
Bah, c'est presque. J'ai trouvé le film. J'ai trouvé le film magnifique, mais c'est peut-être la partie.
Puis le mec, il trouve les monstres lourds.
C'est un peu trop lourd.
Il trouve les monstres lourds, mais il kiffe les deux connards de Pacific Rim, là, les deux sidekicks à deux balles, là. Non, mais ça n'y peut rien comprendre, quoi.
C'est pas. Ils ont pas la même fonction, en fait.
Enfin, moi, j'ai bien aimé Charlie Day aussi. Donc,
ouais.
Bah, si, je trouve qu'ils ont exactement la même fonction, en fait.
Le yokai qui pète. Enfin, moi, ça me.
Mais c'était. D'ailleurs, cette scène, j'ai trouvé super cruelle au début parce que je me suis dit, putain, il va capturer des bébés sangliers pour les manger. Et donc, il y a les deux sangliers, les deux parents sangliers qui leur courent après. Mm-hmm. Et je me suis dit, putain, mais c'est super cruel, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine cruauté qui est. C'est vrai que c'est pas très. C'est assez violent parfois, enfin, moralement.
Là, c'est la violence des sentiments, voilà, etc. Je trouve que c'est bien retranscrit, dans cette vague finale, même si on l'a déjà vu 100 fois, d'accord. Mais le climax est beau, quoi, vraiment. Moi, j'ai été pris et voilà, j'ai trouvé super, super beau, en fait.
Bon, bah, Lettre à Momo est actuellement en salle, donc il sort le 25 septembre. Il y a deux autres films qu'on n'a pas pu voir qui sont en salle, donc on va juste les lister. Il y a La Tour de Guet de Pelin Esmer, qui est un film turc qui est sorti le 11 septembre. Si vous passez devant l'espace Saint-Michel et que vous aimez bien Nuribilj Ceylan, parce que ça semble être un peu dans le même ton, je pense que vous pouvez y aller. Voilà, après, il faut dire que il y a très peu de projections de presse. Non, il n'y a pas de projection de presse en août. Donc, généralement, c'est difficile de rattraper les films de septembre. On a voulu aller le voir en salle. Et malheureusement, c'est vrai, comme il y a une salle sur Paris, en France, je crois qu'il y a
pas
trois
très
salles.
Distribué,
voilà, il y a une distribution qui est vraiment très, très confidentielle. On va peut-être essayer de le rattraper ou en parler quand il sortira en DVD.
Je pense que je vais essayer de le voir ce week-end ou la semaine prochaine, mais si j'ai le temps. Mais ouais, parce qu'il m'intéresse ce film.
Non, ça a l'air bien. Enfin, après, le truc étonnant, c'est que la bande-annonce a été diffusée dans la MK2, mais que MK2 a décidé de ne pas le diffuser finalement.
Il y a plein de cas comme ça. Donc, UGC, c'est pareil.
Oui, UGC, c'est pareil. Ouais.
Oui, UGC, on a l'habitude.
Oui, on a l'habitude.
Et l'autre film dont on voulait dire juste un mot, c'est Chennai Express de Rohit Shetty, qui est distribué par Anafilm. Alors, c'est un Bollywood dont la distribution est un peu étrange parce qu'il passe dans quelques salles, au Brady, au Publicis, là on parle des salles de Paris, il passe en province aussi, dans d'autres salles mais que je ne connais pas. Et donc c'est une énorme sortie indienne puisqu'il y a Shah Rukh Khan et Deepika Padukone qui sont réunis, donc c'est les deux stars de Om Shanti Om. Et on en parle notamment parce que Marjolaine Gou est allé à la conférence de presse à Londres où là il a une sortie qui est assez conséquente, je ne me rappelle plus combien d'écrans, mais bon, enfin c'est une grosse sortie. Shah Rukh Khan était là, donc elle a pu en plus participer à une table ronde où elle a recueilli ses propos, que vous pouvez lire donc sur une page qui est juste à côté. Et nous pareil, bah, je pense qu'on va soit essayer de trouver les 2h30 pour le voir très prochainement, sinon attendre, bah, normalement Anafilm devrait le sortir en DVD, ouais. D'ici quelques semaines. Quelques mois, on va dire.
Ouais.
En même temps, ça fait 12 semaines maintenant, ouais. C'est très rapide. Hein. Et on va finir cette partie cinéma avec un conseil de chacun, donc un film Eurasie que vous conseillez à nos auditeurs, lecteurs. Nicolas.
Donc moi, ce sera Gare du Nord de Claire Simon, qui est un film en fait, donc qui dure 2 heures et qui se passe uniquement dans la Gare du Nord. Comme le titre l'indique, et je trouve que c'est un très très beau film parce que en fait, c'est une espèce de film choral où les personnages se croisent, vaguent à leurs occupations, mais en même temps, c'est assez mystérieux. C'est, parfois, ça a le mérite de ne jamais ennuyer. Il y a une espèce d'ambiance un peu ésotérique voire fantastique à certains moments.
C'est un demi-documentaire.
En fait, la réalisatrice a réalisé ce film, mais ça reste de la fiction. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très très documentaire. Et en même temps, elle a réalisé un documentaire sur le tournage de ce film, donc qui est lui un peu le pendant documentaire que je n'ai pas vu de ce film-là. Mais là, ça reste dans la fiction. C'est-à-dire qu'au départ, on pourrait penser ça va juste suivre des personnes comme ça dans la Gare du Nord, des destins croisés et tout. Mais au final, c'est très beau, ça parle de deuil, ça parle de malade. Enfin, les personnages sont touchés par des choses dont tout le monde peut être touché. Donc c'est un film très, 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 très beau à voir.
Et Jérémy, ton conseil cinéma Eurasie.
Alors moi, ce sera This is the End, c'est la fin de Seth Rogen et Evan Goldberg, qui sortira en salle au mois d'octobre, je ne sais plus quand exactement. Mais qui est la deuxième grande comédie d'apocalypse, on va dire, après celui d'Edgar Wright.
Le dernier pub
avant la fin du monde, The World's End, ouais. Et vraiment, c'est, bah, si on aime la comédie US, c'est un peu le maxi best-of, quoi. Parce qu'il y a vraiment tout le monde, il y a toutes les figures des prods à Pato. Et c'est vraiment, c'est inventif, c'est hilarant. C'est touchant et vraiment, vraiment, faut aller le voir. Ça sort au mois d'octobre. Et si vous aimez Seth Rogen et toute la bande, Jonah Hill, etc., c'est vraiment le caviar, quoi.
Bon, moi, j'irai le voir. Donc Seth Rogen a fait un film à Gare du Nord, c'est ça. Et mon conseil ciné, moi, c'est la Danza de la Realidad, qui est le dernier film d'Alexandre Jodorowsky. Alors, je sais pas s'il est encore... en salle comme il est sorti le 4 septembre. Jodorowsky, je crois que son dernier film date de 92, enfin ça fait 20 ans qu'il n'avait pas fait de film qui s'était consacré à la bande dessinée. Et un autre conseil d'ailleurs, c'est de lire ces bandes dessinées qui sont absolument sublimes, enfin notamment L'Incal qui est la plus connue, mais il y a tout ce qu'il a fait avec Bess, le Lama Blanc ou Juan Solo, qui est, bah, que vous pouvez aller lire les yeux fermés, les yeux grands ouverts. Et là, c'est un peu dans la danse de la réalité, de l'inverse que ce que je disais sur Sonotion, c'est-à-dire qu'il y avait une générosité, mais dont l'envers était la gratuité chez Sonotion. Et là, c'est extrêmement touchant parce qu'il y a plein de symboles, il y a plein d'idées, il y a une idée par plan, des idées de mise en scène, et en même temps, tout fait sens. C'est vrai que Jodorowsky vient du surréalisme, il y a un sens du symbole qui justement est pas du tout gratuit, et il y a cette générosité avec ce sens qui en plus est décuplé parce que c'est une autobiographie. Alors, il y a des chances pour que ça soit une de ses dernières œuvres, voire en tout cas son dernier film, vu les difficultés qu'il a pour mener à terme ses projets.
On espère qu'il puisse un jour adapter L'Incal, justement. Il y avait un projet comme ça,
ouais, ça
avec crois, Nicolas Winding Refn, qui est
ah,
très,
oui,
très
exact,
ami.
Hein. Ouais,
son fils qui reste des rumeurs pour l'instant, mais si un jour ça se met en place...
Mais bon, il a 15 000 projets...
Voilà.
Ouais.
J'espère que ça ne fera pas un deuxième Dune.
Mais moi, je pense que ça serait beau qu'il termine là-dessus, ouais, parce que vraiment, c'est un peu le film somme.
Oui, c'est une autobiographie.
Voilà, il raconte sa vie, ouais, avec poésie, et complètement, voilà, c'est complètement absurde par moments, mais c'est super beau, quoi. Comme dit Victor, il y a 15 000 idées à la seconde.
Tout
et,
à fait d'accord.
Donc, La Danza de la Realidad, Gare du Nord, et This is the End, à voir en salle. Et on revient tout de suite avec les DVD.